France Culture.
Après 4 mois de menaces, de surenchères, de désescalade, les États-Unis et les 27 signent un accord commercial qui, dans les grandes lignes, taxe à 15% les exportations européennes, précision de Frédéric Seyss. C'est le plus grand accord commercial jamais conclu, plastronne Donald Trump, soulagement à court terme, mais désastreux sur le plan géopolitique, lance un ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne, Marie Viennot, nous éclairera sur les mécanismes de l'accord et ses conséquences d'une filière à l'autre. La Thaïlande et le Cambodge viennent tout juste de convenir d'un cessez-le-feu inconditionnel après 5 jours de combat à l'origine de ce conflit. Un différend frontalier, nous serons en ligne de Bangkok. Les bombardements israéliens se poursuivent au sud du Liban. Israël est accusé d'y perpétrer des enlèvements en quête d'Arthur Saradin. Enfin, la pétition contre la loi Duplomb passe les 2 millions de signatures et voilà que la porte-parole du gouvernement nomme à la tête de son cabinet Xavier Jamais, l'ancien directeur des affaires publiques à la FNSEA. L'accord douanier États-Unis-Union européenne, signé hier en Écosse au terme de négociations menées par Donald Trump et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, prévoit donc que toutes les importations européennes seront taxées à 15%. Les Européens se sont par ailleurs engagés à acheter de l'énergie, essentiellement du gaz liquéfié, mais aussi à investir aux États-Unis 600 milliards de dollars en milieu de matinée. Le Premier ministre François Bayrou a eu ces mots. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. Fin de citation. Le ministre français, délégué au commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, veut croire, lui, que les lignes peuvent encore bouger. Il était l'invité ce matin de France Info.
Est-ce que cet accord est équilibré ? Non. Il faut être très clair là-dessus, cet accord n'est pas équilibré. Et donc, il va nous falloir continuer à travailler, notamment sur la partie service. Finalement, cet accord concerne essentiellement les biens, les taxations sur les biens, sur les produits manufacturés. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi sur un autre déséquilibre commercial que parfois Donald Trump oublie de citer, qui est celui des services, et notamment des services numériques,
où là,
les États-Unis sont excédentaires.
Voilà.
Pour le coup. Hein, Donald Trump a dit pendant des mois et des mois, je veux rééquilibrer une relation commerciale qui est totalement au détriment des États-Unis. Et en fait, il ne parlait que des biens. Si vous prenez les services, c'est l'inverse. Et donc à nous aussi de faire ce travail de rapport de force et de rééquilibrage désormais.
La partie n'est pas terminée, se sont empressés de déclarer d'autres membres du gouvernement français, d'autres responsables européens, dans le droit fil de François Bayrou et son « C'est un jour sombre, craignent le pire ». Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour.
Frédéric, que sait-on juste de cet accord à l'heure qu'il est ? Commençons peut-être par ce qui est arrêté.
Oui, d'abord, il met en place donc cette surtaxe de 15% pour presque toutes les marchandises européennes qui entreront sur le sol américain. Ce sont les fameux droits de douane que Donald Trump avait même menacé de porter à 30%. Concrètement, cela veut dire que les produits européens vendus aux États-Unis seront plus chers, sauf si les entreprises européennes réduisent leurs marges. Seule une poignée de secteurs sera épargnée par cette surtaxe, les avions et leurs pièces détachées, certains médicaments et certains produits chimiques. En revanche, les automobiles européennes subiront bien la surtaxe de 15%, tout comme le secteur du luxe. L'acier et l'aluminium, eux, restent taxés à 50%, comme c'est le cas depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Autre point de cet accord, l'Union européenne s'est engagée, par la voix de la présidente de la Commission, à investir aux États-Unis plus de 500 milliards d'euros, mais aussi à acheter davantage d'énergie américaine, 650 milliards, notamment du gaz naturel liquéfié. Tout cela avant la fin du mandat de Donald Trump, c'est-à-dire sur les 3 prochaines années. En revanche, l'Europe, elle, n'imposera pas de droits de douane supplémentaires aux marchandises américaines qui arrivent sur nos marchés.
Et maintenant, Frédéric, qu'est-ce qui est encore flou ?
Alors, il n'est pas clair cet accord sur certains produits. Les vins et spiritueux, par exemple, comment seront-ils taxés ? Pas de réponse à ce stade. Incertitude aussi pour les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs électroniques. Ils font toujours l'objet d'enquêtes de l'administration Trump au nom de la sécurité nationale et le résultat de ces enquêtes pourrait modifier leur niveau de taxation. Autre incertitude, cet accord est-il gravé dans le marbre ? Pour le défendre, Ursula von der Leyen affirme qu'il offre de la visibilité et de la stabilité aux entreprises, mais quels garde-fous sont prévus pour empêcher Donald Trump de revenir sur sa signature ? Là encore, pas de réponse à ce stade.
Merci à vous Frédéric Seyss. En valeur, c'est de loin l'Allemagne qui, au sein de l'Union européenne, exporte le plus de marchandises vers les États-Unis, suivi par l'Irlande et l'Italie. Selon des données Eurostat, la France est moins exposée. Quand on s'attend à un ouragan, on se réjouit d'une simple tempête. Une nouvelle escalade a pu être évitée. Néanmoins, Le prix à payer est élevé pour les deux parties, a réagi dans un communiqué la Fédération VCI de la Chimie, représentant des géants industriels allemands. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour.
Marie, les situations divergent, on l'a vu au sein de l'Union européenne, entre filières, également entre entreprises. A-t-on une idée seulement de qui va payer ces nouveaux droits de douane?
Alors c'est l'entreprise qui importe qui paye les droits de douane. En premier lieu, ce sont donc les sociétés américaines importatrices qui vont reverser au Trésor américain plus de dollars pour chaque produit européen importé. Logiquement, cela va faire grimper les prix à la consommation aux États-Unis et c'est ce qui explique sans doute que l'Union européenne n'a pas elle augmenter les droits de douane qu'elle impose aux États-Unis. Le problème pour les industriels européens, c'est qu'ils sont en concurrence avec les industriels du monde entier. Ils peuvent donc être tentés de réduire leurs prix pour rester compétitifs, ce qui aura un effet sur leurs marges. Et s'ils ne le font pas et maintiennent leurs prix, ils peuvent perdre des ventes, devoir réduire leur production, d'où les menaces qui s'expriment sur l'emploi en Europe. Pour la France, les premiers postes d'exportation vers les États-Unis, ce sont l'aéronautique, 17% de nos exportations outre-Atlantique, les boissons 8% et les produits pharmaceutiques 9%. Voilà pourquoi l'accueil français est mitigé. L'aéronautique est exemptée de ces nouveaux droits de douane. On a donc évité le pire, mais pour les spiritueux et la pharmacie, c'est flou. Il y a en outre autant de stratégies que d'entreprises face à ces nouveaux droits de douane. Cela dépend, attention anglicisme, du pricing power, autrement dit la capacité à augmenter ses prix sans faire fuir les clients. Hermès, par exemple, a déjà dit qu'il avait augmenté ses prix, mais pour le cognac, la directrice financière de LVMH a déjà prévenu que c'était impossible. Voilà pourquoi chiffrer l'impact économique et social de ces nouveaux droits de douane est si compliqué. Ce qui est clair, c'est qu'en Europe et en France, ce sont les entreprises et leurs salariés qui sont en première ligne, alors qu'aux États-Unis, ce sont in fine les consommateurs et consommatrices qui supporteront l'essentiel de la facture, comme le laisse déjà présager l'accélération de l'inflation aux États-Unis ces derniers mois.
Merci à vous, Marie Viennot. Il est 12h36, après 5 jours de combat, 34 morts et plus de 200 000 déplacés. Les pourparlers entre le Cambodge et la Thaïlande, proposés par la Malaisie, ont abouti dans la matinée à la signature d'un cessez-le-feu. Les origines de ce conflit, rappelons-le, remontent à l'ère coloniale. Nous sommes, comme convenu, en ligne de Bangkok. Bonjour Juliette Chénion.
Bonjour, bonjour à tous.
Juliette, que sait-on du contenu de ces discussions ?
Eh bien, vous l'avez dit, la Thaïlande et le Cambodge viennent de s'accorder sur un cessez-le-feu inconditionnel, annonce du Premier ministre malaisien, le médiateur des pourparlers aujourd'hui. Ce cessez-le-feu doit prendre effet ce soir à minuit, heure locale. Il faut savoir que les combats ont continué aujourd'hui. Les premiers ministres thaïlandais et cambodgiens ont discuté 2 heures environ avant de se serrer la main devant les caméras. Les négociations ont eu lieu aussi en présence de la Chine et des États-Unis. Cet accord, il porte sur l'arrêt des combats. Il est loin d'avoir réglé le différend frontalier entre les deux pays, un différend vieux de décennies. Les deux pays ont aussi accepté de reprendre la communication directe et les processus d'échange bilatéraux. Ce cessez-le-feu est une première étape. Une autre réunion doit avoir lieu demain matin entre les chefs militaires locaux dans la région frontalière pour tenter d'arriver ensuite à un accord plus durable. Et la Malaisie, actuelle présidente de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, s'est proposée d'observer le processus pour s'assurer que les deux parties, la Thaïlande et le Cambodge, respectent bien leurs engagements.
Merci à vous, Juliette Chénion, en direct de Bangkok. Le taux de malnutrition dans la bande de Gaza atteint des niveaux alarmants selon l'Organisation mondiale de la santé, dernier relevé en date qui, après bien d'autres, vient dire l'urgence de lutter contre la famine due au blocus israélien. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a consenti à, je cite, une pause tactique limitée dans ses opérations militaires, fin de citation, à des fins humanitaires et dans certains secteurs. Au sud du Liban, cela va faire 8 mois qu'un cessez-le-feu a été annoncé. Et pourtant, les bombardements israéliens continuent, plus sporadiques, mais quasi quotidiens. Ils réveillent les craintes de nombreux civils, épuisés déjà d'avoir vécu plus d'un an sous les échanges de tirs de Tel Aviv et du Hezbollah. Et depuis quelques mois, certains accusent même Israël d'avoir enlevé plusieurs civils, dont des bergers de la région. Enquête et reportage à la frontière de notre correspondant au Liban, Arthur Saradin.
Il faut désormais monter avec la police municipale de Chebra si l'on veut atteindre les marches du village. La baraque où ils nous emmènent est à 500 mètres de la frontière avec Israël. Ou peut-être moins, d'après les policiers.
Normalement, la frontière est derrière cette montagne, mais il est désormais interdit d'aller plus loin que cette colline.
Depuis la fin de la guerre, en novembre dernier, Israël occupe 5 zones de la frontière libanaise et poursuit ses incursions sur le territoire. Halima nous reçoit chez elle. Son frère, un berger, a été enlevé il y a 6 semaines.
Aujourd'hui, on est toujours sans nouvelles. Le cœur de ma mère est brisé, elle ne dort plus. Tous les jours, elle ne fait que pleurer.
La jeune femme et sa famille continuent d'alerter les autorités. Ils en appellent au comité de surveillance du cessez-le-feu dont la France fait partie.
Parce que c'est juste un berger, personne ne demande rien, ni ne fait rien pour nous. Ce n'est pas normal. Mon frère avait l'habitude d'emmener paître dans ce champ ses 400 chèvres. Où vont-elles aller maintenant ?
À quelques kilomètres de là, dans le village frontalier de Kfar Chouba, Abou Hassem, 72 ans, a lui aussi été enlevé par des soldats israéliens. Il a été relâché dans la nuit.
J'étais avec mes chèvres, un petit troupeau. Descendu de la montagne, des hommes armés m'ont encerclé et amené. Ils m'ont demandé ce que je faisais là. Moi, j'ai dit, c'est ma terre, je viens ici depuis des années. Là, le soldat m'a répondu, non, désormais, c'est la nôtre. Et dis bien à tes amis que s'ils viennent ici, nous les abattrons.
16 Libanais sont encore retenus côté israélien, parmi lesquels des hommes du Hezbollah et des civils. Les habitants de la frontière, eux, s'inquiètent d'une zone tampon informelle qui menace de s'étendre.
Reportage d'Arthur Sardin, notre correspondant au Liban. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture. 3 morts et 2 personnes portées disparues après l'incendie la nuit dernière d'un gîte accueillant des adultes handicapés en Charente. Dernier bilan livré par la préfecture. Le bâtiment détruit est un ancien corps de ferme et avait, je cite, le label pour accueillir des personnes handicapées pendant la période des vacances. La pétition lancée contre la loi Duplon sur le site de l'Assemblée nationale a franchi ce matin la barre des 2 millions de signatures. Cette loi, votée le 8 juillet, réintroduit de manière dérogatoire un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, l'acétamipride. La présidente de l'Assemblée nationale est favorable, elle l'a dit à l'ouverture d'un débat dans l'hémicycle. La gauche, elle, somme le chef de l'État de renoncer à la promulgation de cette loi. Le Conseil constitutionnel, encore du contexte, se prononcera sur cette loi Duplon le 7 août prochain. Cependant, bonjour Jeanne Serrin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Qu'une nomination au sein de l'exécutif pourrait alimenter la contestation. En effet, la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, a choisi de nommer un ancien cadre de la FNSEA à la tête de son cabinet.
Oui, il s'appelle Xavier Jamais et ce n'est pas un inconnu pour Sophie Prima puisqu'il a été l'un de ses collaborateurs parlementaires lorsqu'elle était encore sénatrice des Yvelines. Et c'est d'ailleurs pour ce lien de confiance qu'il a été choisi, assure l'entourage de la porte-parole ce midi. Mais cela fait déjà plusieurs années que Xavier Jamais a quitté la politique pour rejoindre le monde agricole, et plus particulièrement la FNSEA, où il arrive en 2023, d'abord comme responsable, puis comme directeur de son pôle affaires publiques, un poste qu'il va occuper 1 an jusqu'à ce repêchage politique qui questionne, puisqu'il s'ajoute à d'autres liens déjà soulevé pendant les débats sur la loi Duplon entre l'exécutif et la FNSEA. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, accusée par les opposants au texte de reprendre régulièrement les éléments de langage du syndicat agricole. Voté en commission mixte paritaire, à huis clos, plusieurs députés et sénateurs qui composaient cette CMP ont eux aussi été accusés de conflits d'intérêts pour leur lien avec l'industrie agro-industrielle. C'est ce que révélait une enquête de Mediapart en juin dernier, listant les postes stratégiques occupés par plusieurs élus de droite dans des instances agricoles directement liées ou proches de la FNSEA. Le sénateur Laurent Duplon, lui-même co-rapporteur du texte, un éleveur et ancien élu du syndicat qui assume d'ailleurs ouvertement calquer certains de ses amendements sur ceux proposés par son ancienne organisation.
Jeanne Serrin, merci. Un autre enjeu environnemental, celui de la pollution engendrée par les moteurs des paquebots. Le premier port de croisière en Europe, Barcelone, en Espagne, ambitionne une réduction d'ici 2030 de sa capacité d'accueil de ces types de navires dans une ville où le surtourisme alimente la colère des habitants. C'est un reportage d'Henri Delaguerie.
Avec sa femme et ses 2 filles, Jean, originaire du Québec, va monter à bord du Disney Fantasy, un bateau de 340 mètres de long pour 66 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages, au programme une semaine de croisière.
On parle d'ici, de Barcelone, on va à Lisbonne et on finit à Southampton en Angleterre.
Mais un épais nuage de fumée s'échappe du bateau de Xavi qui dénonce le tourisme de croisière sans parfois l'odeur en pleine rue.
Les émissions de dioxyde de soufre des bateaux de croisière, ça représente 10 fois les émissions de toutes les voitures et les camions.
L'an dernier, Barcelone a reçu plus de 3,5 millions de croisiéristes, un record qui participe à la saturation du centre-ville et à la grogne des habitants, une grogne qui ne passe pas inaperçue.
C'est un apport économique quand même considérable pour la ville. Ici, dans des grands ports d'attache, je crois que c'est bien. Dans les plus petits endroits comme les îles grecques, ça peut être encombrant et je le comprends très bien.
D'ici 2030, le nombre de bateaux devrait diminuer de 16% avec la suppression de deux quais. Jaume Coiboni est le maire de Barcelone.
Avec cette mesure, on réduit la massification. On veille à ce que le tourisme soit compatible avec la vie de la cité.
En revanche, le trafic aérien ne prendra pas la même direction. Un projet d'extension de l'aéroport de Barcelone vient d'être annoncé par les autorités.
Quelques mots de la météo pour refermer cette édition. Les Bouches-du-Rhône sont aujourd'hui en vigilance rouge au feu de forêt pour la troisième journée consécutive. Alerte Météo France. Temps encore nuageux et instable. Du centre à l'est du pays, ciel variable sur l'ouest. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, à la technique Ludovic Auger.